Chapitre 3. Je suis l'amant au pied de la dame en rose. C'est presque un état, une charge, et cela donne de la consistance dans le monde. Je n'ai plus l'air d'un écolier qui cherche une bonne fortune parmi les aïeuls et qui n'ose débiter un madrigal à une femme, à moins qu'elle ne soit centenaire. Je m'aperçois depuis mon installation que l'on me considère beaucoup plus, que toutes les femmes me parlent avec une coquetterie jalouse et font de grands frais pour moi. Les hommes, au contraire, y mettent plus de froideur, et dans le peu de mots que nous échangeons, il y a quelque chose d'hostile et de contraint. Ils sentent qu'ils ont en moi un rival déjà redoutable et qui peut le devenir davantage. Il m'est revenu que beaucoup d'entre eux avaient amèrement critiqué ma façon de me mettre et avaient dit que je m'habillais d'une manière trop efféminée, que mes cheveux étaient bouclés et lustrés avec plus de soin qu'il ne convenait, que cela, joint à ma figure imberbe, me donnait un air d'amoiseau un peu plus ridicule, que j'affectais pour mes vêtements des étoffes riches et brillantes qui sentaient leur théâtre, et que je ressemblais plus à un comédien qu'à un homme. Toutes les banalités qu'on dit pour se donner le droit d'être sale et de porter des habits pauvres et mal coupés. Mais tout cela ne fait que blanchir, et toutes les dames trouvent que mes cheveux sont les plus beaux du monde, que mes recherches sont du meilleur goût et semblent fort disposées à me dédommager des frais que je fais pour elles, car elles sont prêtes assez sottes pour croire que toute cette élégance n'est pourvue que mon embellissement particulier. La dame du logis a d'abord paru un peu piquée de mon choix, qu'elle croyait devoir nécessairement tomber sur elle, et pendant quelques jours elle en a gardé une certaine aigreur, envers sa rivale seulement, car moi elle m'a toujours parlé de même, qui se manifestait par quelques petits « ma chère », dit avec cette manière sèche et découpée que les femmes ont seules, et par quelques avis les obligeant sur sa toilette donnée à aussi haute voix que possible, comme « Oh, vous êtes coiffé beaucoup trop haut et pas du tout à l'air de votre visage », ou « Votre corsage poche sous les bras, qui vous a donc fait cette robe ?» ou « Vous avez les yeux bien battus, je vous trouve toute changée », et mille autres menues observations, à quoi l'autre ne manquait pas de riposter avec toute la méchanceté désirable quand l'occasion s'en présentait. Et si l'occasion tardait trop, elle s'en faisait elle-même une pour son usage et rendait, et au-delà, ce qu'on lui avait donné. Mais bientôt, un autre objet ayant détourné l'attention de l'infante dédaignée, cette petite guerre de mots cessa et tout rentra dans l'ordre habituel. Je t'ai dit sommairement que j'étais l'amant au pied de la dame aux roses. Ça ne suffit pas pour un homme aussi ponctuel que tu l'es. Tu me demanderas sans doute comment elle s'appelle. Quant à son nom, je ne te le dirai pas. Mais si tu veux, pour la facilité du récit, et en mémoire de la couleur de la robe avec laquelle je l'ai vue pour la première fois, nous l'appellerons Rosette. C'est un joli nom. Ma petite chienne s'appelait comme ça. Tu voudras savoir de point en point, car tu aimes la précision dans ces sortes de choses, l'histoire de nos amours avec cette belle bradamante, et par quelles gradations successives j'ai passé du général au particulier et de l'état de simple spectateur à celui d'acteur. Comment, de public que j'étais, je suis devenu amant. Je contenterai ton envie avec le plus grand plaisir. Il n'y a rien de sinistre dans notre roman. Il est couleur de rose et l'on y verse d'autres larmes que celles du plaisir. On n'y rencontre ni longueur ni redite, et tout y marche vers la fin avec cette hâte et cette rapidité si recommandée par Horace. C'est un véritable roman français. Toutefois, ne va pas t'imaginer que j'ai emporté la place au premier assaut. La princesse, quoique fort humaine pour ses sujets, n'est pas aussi prodigue de ses faveurs qu'on pourrait le croire d'abord. Elle en connaît trop le prix pour ne pas vous les faire acheter. Elle sait trop bien aussi ce qu'un juste retard donne de vivacité au désir, et le ragoût d'une demi-résistance ajoute au plaisir pour se livrer à vous tout d'abord, si vif que soit le goût que vous lui ayez inspiré. Pour te conter la chose tout au long, il faut remonter un peu plus haut. Je t'ai fait un récit assez circonstancié de notre première entrevue. J'en ai eu encore un ou deux autres dans la même maison, ou même trois. Puis elle m'a invité à aller chez elle. Je ne me suis pas fait prier, comme tu peux le croire. J'y suis allé avec discrétion d'abord, puis un peu plus souvent, puis encore plus souvent, puis enfin toutes les fois que l'envie m'en prenait. Et je dois avouer qu'elle m'en prenait au moins 3 ou 4 fois par jour. La dame, après quelques heures d'absence, me recevait toujours comme si je fusse revenu des Indes orientales. Ce à quoi j'étais on ne peut plus sensible, et ce qui m'obligeait à montrer ma reconnaissance d'une manière marquée par les choses les plus galantes et les plus tendres du monde auxquelles elle répondait de son mieux. Rosette, puisque nous sommes convenus de l'appeler ainsi, est une femme d'un grand esprit et qui comprend l'homme de la manière la plus aimable. Quoiqu'elle ait retardé quelque temps la conclusion du chapitre, je n'ai pas pris une seule fois de l'humeur contre elle. Ce qui est vraiment merveilleux, car tu sais, les belles fureurs où j'entre lorsque je n'ai pas sur le champ ce que je désire et qu'une femme dépasse le temps que je lui ai assigné dans ma tête pour se rendre. Je ne sais pas comment elle a fait. Dès la première entrevue, elle m'a fait comprendre que je l'aurais. J'en étais plus sûr que si j'en eusse tenu la promesse écrite et signée de sa main. On dira peut-être que la hardiesse et la facilité de ses manières laissaient le champ libre à la témérité des espérances. Je ne pense pas que ce soit là le vrai motif. J'ai vu quelques femmes dont la prodigieuse liberté excluait, en quelque sorte, jusqu'à l'ombre d'un doute, qui ne m'ont pas produit cet effet, et auprès desquelles j'avais des timidités et des inquiétudes pour le moins déplacées. Ce qui fait qu'en général, je suis bien moins aimable avec les femmes que je veux avoir qu'avec celles qui me sont indifférentes. C'est l'attente passionnée de l'occasion et l'incertitude où je suis de la réussite de mon projet. Cela me donne du sombre et me gêne dans une rêverie qui m'ôte beaucoup de mes moyens et de ma présence d'esprit. Quand je vois s'échapper une à une les heures que j'avais destinées à un autre emploi, la colère me gagne malgré moi. Je ne puis m'empêcher de dire des choses fort sèches et fort aigres qui vont quelquefois jusqu'à la brutalité et qui reculent mes affaires à 100 lieues. Avec Rosette, je n'ai rien senti de tout cela. Jamais, même au moment où elle me résistait le plus, je n'ai eu cette idée qu'elle voulût échapper à mon amour. Je lui ai laissé déployer tranquillement toutes ses petites coquetteries et j'ai pris en patience les délais assez longs qu'il lui a plu d'apporter à mon ardeur. Sa rigueur avait quelque chose de souriant, qui vous en consolait autant que possible, et dans ses cruautés les plus hircaniennes, on entrevoyait au fond d'humanité qui ne vous permettait guère d'avoir une peur bien sérieuse. Les honnêtes femmes, même lorsqu'elles le sont le moins, ont une façon rechignée et dédaigneuse qui m'est parfaitement insupportable. Elles vous ont l'air toujours prêtes à sonner et à vous faire jeter à la porte par leur laquais. Et il me semble en vérité qu'un homme qui prend la peine de faire la cour à une femme, ce qui n'est pas déjà aussi agréable qu'on veut le croire, ne mérite pas d'être regardé de cette manière-là. La chère Rosette n'a pas de ces regards-là, elle, et je t'assure qu'elle y trouve son profit. C'est la seule femme avec qui j'ai été moi, et j'ai la fatuité de dire que je n'ai jamais été aussi bien. Mon esprit s'est déployé librement, et par l'adresse et le feu de ses répliques, elle m'en a fait trouver plus que je n'en croyais, et plus que j'en ai peut-être réellement. Il est vrai que j'ai été assez peu lyrique. Cela n'est guère possible avec elle. Ce n'est pas cependant qu'elle n'ait son côté poétique, malgré ce que De C en a dit, mais elle est si pleine de vie et de force et de mouvement. Elle a l'air d'être si bien dans le milieu où elle est qu'on n'a pas envie d'en sortir pour monter dans les nuages. Elle remplit la vie réelle si agréablement et en fait une chose si amusante pour elle et pour les autres que la rêverie n'a rien à vous offrir de mieux. Chose miraculeuse! Voilà près de 2 mois que je la connais, et depuis ce temps, je ne me suis ennuyé que lorsque je n'étais pas avec elle. Tu conviendras que cela n'est pas d'une femme médiocre de produire un pareil effet, car habituellement les femmes produisent sur moi l'effet précisément inverse et me plaisent beaucoup plus de loin que de près. Rosette a le meilleur caractère du monde, avec les hommes, s'entend, car avec les femmes, elle est méchante comme un diable. Elle est gaie, vive, alerte, prête à tout, très originale dans sa manière de parler et a toujours à vous dire quelques charmantes drôleries auxquelles on ne s'attend pas. C'est un délicieux compagnon, un joli camarade avec lequel on couche plutôt qu'une maîtresse. Et si j'avais quelques années de plus et quelques idées romanesques de moins, cela me ferait parfaitement égal et même je m'estimerais le plus fortuné mortel qui soit. Mais, voilà une particule qui n'annonce rien de bon et ce diable de petits mots restrictifs est malheureusement celui de toutes les langues humaines qui est le plus employé. Mais, je suis un imbécile, un idiot, un véritable oison qui ne sait me contenter de rien et qui va toujours chercher midi à 14 heures. Et au lieu d'être tout à fait heureux, je ne le suis qu'à moitié. À moitié, c'est déjà beaucoup pour ce monde-ci. Et cependant, je trouve que ce n'est pas assez. Aux yeux de tout le monde, j'ai une maîtresse que plusieurs désirent et m'envient et que personne ne dédaignerait. Mon désir est donc rempli en apparence, et je n'ai plus le droit de chercher des querelles au sort. Cependant, il ne me semble pas avoir une maîtresse. Je le comprends par raisonnement, mais je ne le sens pas. Et si quelqu'un me demandait inopinément si j'en ai une, je crois que je répondrais que non. Pourtant, la possession d'une femme qui a de la beauté, de la jeunesse et de l'esprit constitue ce que dans tous les temps et dans tous les pays, on a appelé et appelle avoir une maîtresse. Je ne pense pas qu'il y ait une autre manière. Cela n'empêche pas que je n'ai les plus étranges doutes à cet égard. Et cela est poussé au point que, si plusieurs personnes s'entendaient pour me soutenir que je ne suis pas l'amant favorisé de Rosette, malgré l'évidence palpable de la chose, je finirais par les croire. Ne va pas imaginer, d'après ce que je te dis, que je ne l'aime pas ou qu'elle me déplaise en quelque chose. Je l'aime au contraire beaucoup, et je la trouve ce que tout le monde la trouvera, une jolie et piquante créature. Simplement, je ne me sens pas l'avoir, voilà tout. Et pourtant, aucune femme ne m'a donné autant de plaisir, et si jamais j'ai compris la volupté, c'est dans ses bras. Un seul de ses baisers, la plus chaste de ses caresses, me fait frissonner jusqu'à la plante des pieds, et fait refluer tout mon sang au cœur. Arranger tout cela, la chose est pourtant comme je te la conte. Mais le cœur de l'homme est plein de ces absurdités-là, et s'il fallait concilier toutes les contradictions qu'il renferme, on aurait fort à faire. Mais d'où cela peut-il venir? En vérité, je ne sais. Je la vois toute la journée et même toute la nuit, si je veux. Je lui fais toutes les caresses qu'il me plaît de lui faire. Je l'ai nue ou habillée à la ville ou à la campagne. Elle est d'une complaisance inépuisable et entre parfaitement dans tous mes caprices, si bizarres qu'ils soient. Un soir, il m'a pris cette fantaisie de la posséder au milieu du salon. Le lustre, les bougies allumées, le feu dans la cheminée, les fauteuils rangés en cercle comme pour une grande soirée de réception, elle en toilette de bal avec son bouquet et son éventail, tous ses diamants aux doigts et au cou, des plumes sur la tête, le costume le plus splendide possible, et moi habillé en ours. Elle y a consenti. Quand tout fut prêt, les domestiques furent très surpris de recevoir l'ordre de fermer les portes et de ne laisser monter personne. Il n'avait pas l'air de comprendre le moins du monde et s'en allèrent avec une mine hébétée qui nous fit bien rire. À coup sûr, ils pensèrent que leur maîtresse était décidément folle. Mais ce qu'ils pensaient ou ne pensaient pas ne nous importait guère. Cette soirée est la plus bouffonne de ma vie. Te figures-tu l'air que je devais avoir avec mon chapeau à plumes sous la patte, des bagues à toutes les griffes, une petite épée à garde d'argent et un ruban bleu de ciel à la poignée. Me suis approché de la belle, et après lui avoir fait la plus gracieuse révérence, je m'assis à côté d'elle et je la siégeai dans toutes les formes. Les madrigaux musqués, les galanteries exagérées que je lui adressais, tout le jargon de la circonstance prenait un reflet singulier en passant par mon mufle d'ours. Car j'avais une superbe tête en carton peint que je fus bientôt obligé de jeter sous la table tellement ma déité était adorable ce soir-là et tant j'avais envie de lui baiser la main et mieux que la main. La peau suivit la tête à peu de distance car, n'ayant pas l'habitude d'être ours, j'y étouffais très bien et plus qu'il n'était nécessaire. Alors la toilette de bal eut beau jeu, comme tu peux le croire. Les plumes tombaient comme une neige autour de ma beauté, les épaules sortirent bientôt des manches, les seins du corset, les pieds des souliers et les jambes des bas. Les colliers des filets roulèrent sur le plancher, et je crois que jamais robe plus fraîche n'a été plus impitoyablement fripée et chiffonnée. La robe était de gaze d'argent et la doublure de satin blanc. Rosette a déployé dans cette occasion un héroïsme tout à fait au-dessus de son sexe et qui m'a donné d'elle la plus haute opinion. Elle a assisté au sac de sa toilette comme un témoin désintéressé et n'a pas montré un seul instant le moindre regret pour sa robe et ses dentelles. Elle était au contraire de la gaieté la plus folle et aidait elle-même à déchirer et à rompre ce qui se dénouait et qui ne se décrafait pas assez vite à mon gré et au sien. Ne trouves-tu pas cela d'un beau à consigner dans l'histoire, à côté des plus éclatantes actions des héros de l'Antiquité? C'est la plus grande preuve d'amour qu'une femme puisse donner à son amant que de ne pas lui dire « Oh, prenez garde de me chiffonner ou de me faire des taches, surtout si la robe est neuve. » Une robe neuve est un plus grand motif de sécurité pour un mari qu'on ne le croit communément. Oh, il faut que Rosette m'adore ou qu'elle ait une philosophie supérieure à celle d'Épictète. Toujours est-il que je crois bien avoir payé à Rosette la valeur de sa robe et au-delà, en une monnaie qui, pour n'avoir pas cours chez les marchands, n'en est pas moins estimée et prisée. Tant d'héroïsme méritait bien une pareille récompense. Au reste, en femme généreuse, elle m'a bien rendu ce que je lui ai donné. J'ai eu un plaisir fou, presque convulsif, et comme je ne me croyais pas capable d'en éprouver. Ces baisers sonores, mêlés de rires éclatants, ces caresses frémissantes et pleines d'impatience, toutes ces voluptés âcres et irritantes, ce plaisir goûté incomplètement à cause du costume et de la situation, mais plus vif cent fois que s'il eût été sans entrave, me donnèrent tellement sur les nerfs qu'il me prit des spasmes dont j'eus quelque peine à me remettre. Tu ne saurais t'imaginer l'air tendre et fier dont Rosette me regardait tout en cherchant à me faire revenir, et la manière pleine de joie et d'inquiétude dont elle s'empressait autour de moi. Sa figure rayonnait encore du plaisir qu'elle ressentait de produire sur moi un effet semblable, en même temps que ses yeux, tout trempés de douces larmes, témoignaient de la peur qu'elle avait de me voir malade et de l'intérêt qu'elle prenait à ma santé. Jamais elle ne m'a paru aussi belle qu'à ce moment-là. Il y avait quelque chose de si maternel et de si chaste dans son regard que j'oubliais totalement la scène plus qu'anacréontique qui venait de se passer et me mis à genoux devant elle en lui demandant la permission de baiser sa main. Ce qu'elle m'accorda avec une gravité et une dignité singulières. Assurément, cette femme-là n'est pas aussi dépravée que de se le prétend, et qu'elle me l'a paru bien souvent à moi-même. Sa corruption est dans son esprit, et non pas dans son cœur. Je t'ai cité cette scène entre 20 autres. Il me semble qu'après cela, on peut, sans fatuité excessive, se croire l'amant d'une femme. Eh bien, c'est ce que je ne fais pas. J'étais à peine de retour chez moi que cette pensée me reprit et se mit à me travailler comme d'habitude. Je me souvenais parfaitement de tout ce que j'avais fait et vu faire. Les moindres gestes, les moindres pauses, tous les plus petits détails se dessinaient très nettement dans ma mémoire. Je me rappelais tout, jusqu'aux plus légères inflexions de voix, jusqu'aux plus insaisissables nuances de la volupté. Seulement, il ne me paraissait pas que ce fût à moi, plutôt qu'à un autre, que toutes ces choses fussent arrivées. Je n'étais pas sûr que ce ne se fût une illusion, une fantasmagorie, un rêve, ou que je n'eusse lu cela quelque part, ou même que ce ne fût une histoire composée par moi, comme je m'en suis fait bien souvent. Je craignais d'être la dupe de ma crédulité et le jouet de quelque mystification. Et malgré le témoignage de ma lassitude et les preuves matérielles que j'avais couchées dehors, j'aurais cru volontiers que je m'étais mis dans mes couvertures à mon heure ordinaire et que j'avais dormi jusqu'au matin. Je suis très malheureux de ne pouvoir acquérir la certitude morale d'une chose dont j'ai la certitude physique. C'est ordinairement l'inverse qui a lieu, et c'est le fait qui prouve l'idée. Je voudrais me prouver le fait par l'idée. Je ne le puis. Quoique la chose soit assez singulière, elle l'est. Il dépend de moi, jusqu'à un certain point, d'avoir une maîtresse, mais je ne puis me forcer à croire que j'en ai une tout en l'ayant. Si je n'ai pas en moi la foi nécessaire, même pour une chose aussi évidente, il m'est aussi impossible de croire à un fait aussi simple qu'à un autre de croire à la Trinité. La foi ne s'acquiert pas, et c'est un pur don, une grâce spéciale du ciel. Jamais personne autant que moi n'a désiré vivre dans la vie des autres et s'assimiler une autre nature. Jamais personne n'y a moins réussi. Quoi que je fasse, les autres hommes ne sont guère pour moi que des fantômes, et je ne sens pas leur existence. Ce n'est pourtant pas le désir de reconnaître leur vie et d'y participer qui me manque. C'est la puissance ou le défaut de sympathie réelle pour quoi que ce soit. L'existence ou la non-existence d'une chose ou d'une personne ne m'intéresse pas assez pour que j'en sois affecté d'une manière sensible et convaincante. La vue d'une femme ou d'un homme qui m'apparaît dans la réalité ne laisse pas sur mon âme des traces plus fortes que la vision fantastique du rêve. Il s'agite autour de moi un pâle monde d'ombre et de semblants, faux ou vrai, qui bourdonne sourdement, au milieu duquel je me trouve aussi parfaitement seul que possible, car aucun n'agit sur moi en bien ou en mal, et ils me paraissent d'une nature tout à fait différente. Si je leur parle et qu'ils me répondent quelque chose qui est à peu près le sens commun, je suis aussi surpris que si mon chien ou mon chat prenait tout à coup la parole et se mêlait à la conversation. Le son de leur voix m'étonne toujours, et je croirais très volontiers qu'ils ne sont que de fugitives apparences dont je suis le miroir objectif. Inférieur ou supérieur, à coup sûr, je ne suis pas de leur espèce. Il y a des moments où je ne reconnais que Dieu au-dessus de moi, et d'autres où je me juge à peine l'égal du cloporte sous sa pierre ou du mollusque sur son banc de sable. Mais dans quelque situation d'esprit que je me trouve, haut ou bas, je n'ai jamais pu me persuader que les hommes étaient vraiment mes semblables. Quand on m'appelle « monsieur », ou qu'en parlant de moi on dit « cet homme », cela me paraît fort singulier. Mon nom même me semble un nom en l'air, et qui n'est pas mon véritable nom. Cependant, si bas qu'il soit prononcé au milieu du bruit le plus fort, je me retourne subitement, avec une vivacité convulsive et fébrile dont je n'ai jamais pu me rendre compte. Est-ce la crainte de trouver dans cet homme qui sait mon nom et pour qui je ne suis plus la foule, un antagoniste ou un ennemi? C'est surtout lorsque j'ai vécu avec une femme que j'ai le mieux senti combien ma nature repoussait invinciblement toute alliance et toute mixtion. Je suis comme une goutte d'huile dans un verre d'eau. Vous aurez beau tourner et remuer, jamais l'huile ne se pourra lier avec elle. Elle se divisera en 100 000 petits globules qui se réuniront et remonteront à la surface au premier moment de calme. Mais la goutte d'huile, le verre d'eau, voilà mon histoire. La volupté même, cette chaîne de diamants qui lie tous les êtres, ce feu dévorant qui fond les rochers et les métaux de l'âme et les fait retomber en pleurs comme le feu matériel fait fondre le fer et le granit, toute puissante qu'elle est, n'a jamais pu me dompter ou m'attendrir. Cependant, j'ai les sens très vifs, mais mon âme est pour mon corps une sœur ennemie, et le malheureux couple, comme tout couple possible, légal ou illégal, vit dans un état de guerre perpétuelle. Les bras d'une femme, ce qui lie le mieux sur la terre à ce qu'on dit, sont pour moi de bien faibles attaches, et je n'ai jamais été plus loin de ma maîtresse que lorsqu'elle me serrait sur son cœur. J'ai tout fait, voilà tout. Mais que de fois je me suis coléré contre moi-même, que d'efforts j'ai fait pour ne pas être ainsi. Comme je me suis exhorté à être tendre, amoureux, passionné, que souvent j'ai pris mon âme par les cheveux et l'ai traînée sur mes lèvres au beau milieu d'un baiser. Quoi que j'ai fait, elle s'est toujours reculée en s'essuyant aussitôt que je l'ai lâchée. Quel supplice pour cette pauvre âme d'assister aux débauches de mon corps et de s'asseoir perpétuellement à des festins où elle n'a rien à manger. C'est avec Rosette que j'ai résolu, une fois pour toutes, d'éprouver si je ne suis pas décidément insociable et si je puis prendre assez d'intérêt dans l'existence d'une autre pour y croire. J'ai poussé les expériences jusqu'à l'épuisement, mais je ne me suis pas beaucoup éclairci dans mes doutes. Avec elle, le plaisir est si vif que l'âme se trouve assez souvent, sinon touchée, au moins distraite, ce qui nuit un peu à l'exactitude des observations. Après tout, j'ai reconnu que cela ne passait pas par la peau et que je n'avais qu'une jouissance d'épiderme à laquelle l'âme ne participait que par curiosité. J'ai du plaisir parce que je suis jeune et ardent, mais ce plaisir me vient de moi et non d'un autre. La cause est dans moi-même plutôt que dans Rosette. J'ai beau faire, je n'ai pu sortir de moi une minute. Je suis toujours ce que j'étais, c'est-à-dire quelque chose de très ennuyé et de très ennuyeux qui me déplaît fort. Je n'ai pu venir à bout de faire entrer dans ma cervelle l'idée d'un autre dans mon âme, le sentiment d'un autre dans mon corps, la douleur ou la jouissance d'un autre. Je suis prisonnier dans moi-même et toute évasion est impossible. Le prisonnier veut s'échapper, les murs ne demandent pas mieux que de crouler, et les portes que de s'ouvrir pour lui livrer passage. Je ne sais quelle fatalité retient invinciblement chaque pierre à sa place et chaque verrou dans ses ferrures. Il m'est aussi impossible d'admettre quelqu'un chez moi que d'aller moi-même chez les autres. Je ne saurais ni faire ni recevoir de visite, et je vis dans le plus triste isolement au milieu de la foule. Mon lit peut n'être pas veuf, mais mon cœur l'est toujours. Ah, ne pouvoir s'augmenter d'une seule parcelle, d'un seul atome, ne pouvoir faire couler le sang des autres dans ses veines, voir toujours de ses yeux, ni plus clair, ni plus loin, ni autrement, entendre les sons avec les mêmes oreilles et la même émotion, toucher avec les mêmes doigts, percevoir des choses variées avec un organe invariable, être condamné au même timbre de voix, au retour des mêmes tons, des mêmes phrases et des mêmes paroles, et ne pouvoir s'en aller, se dérober à soi-même, se réfugier dans quelque coin où l'on ne suive pas, être forcé de se garder toujours, de dîner et de coucher avec soi, d'être le même homme pour 20 femmes nouvelles, traîné au milieu des situations les plus étranges du drame de notre vie, un personnage obligé et dont vous savez le rôle par cœur, penser les mêmes choses, avoir les mêmes rêves, quel supplice, quel ennui! J'ai désiré le corps des frères Tangu, le chapeau de Fortunatus, le bâton d'Amaris, l'anneau de Gigès. J'aurais vendu mon âme pour attacher la baguette magique de la main d'une fée, mais je n'ai jamais rien tant souhaité que de rencontrer sur la montagne, comme Tirésias le devin, ces serpents qui font changer de sexe. Et ce que j'envie le plus aux dieux monstrueux et bizarres de l'Inde, ce sont leurs perpétuels avatars et leurs transformations innombrables. J'ai commencé par avoir envie d'être un autre homme, puis, faisant réflexion que je pouvais par l'analogie prévoir à peu près ce que je sentirais, et alors ne pas éprouver la surprise de le changement attendu, j'aurais préféré être femme. Cette idée m'est toujours venue lorsque j'avais une maîtresse qui n'était pas laide, car une femme laide est un homme pour moi, et aux instants de plaisir, j'aurais volontiers changé de rôle, car il est bien impatientant de ne pas avoir la conscience de l'effet qu'on produit et de ne juger de la jouissance des autres que par la sienne. Ces pensées et beaucoup d'autres m'ont souvent donné, dans les moments où il était le plus déplacé, un air méditatif et rêveur qui m'a fait accuser bien à tort, vraiment, de froideur et d'infidélité. Rosette, qui ne sait pas tout cela, fort heureusement, me croit l'homme le plus amoureux de la terre. Elle prend cette impuissante fureur pour une fureur de passion, et elle se prête de son mieux à tous les caprices expérimentaux qui me passent par la tête. J'ai fait tout ce que j'ai pu pour me convaincre de sa possession. J'ai tâché de descendre dans son cœur, mais je me suis toujours arrêté à la première marche de l'escalier, à sa peau ou sur sa bouche. Malgré l'intimité de nos relations corporelles, je sens bien qu'il n'y a rien de commun entre nous. Jamais une idée pareille aux miennes n'a ouvert ses ailes dans cette tête jeune et souriante. Jamais ce cœur de vie et de feu qui soulève palpitant une gorge si ferme et si pure n'a battu à l'unisson de mon cœur. Mon âme ne s'est jamais unie avec cette âme. Cupidon, le dieu aux ailes d'épervier, n'a pas embrassé Psyché sur son beau front d'ivoire, non. Cette femme n'est pas ma maîtresse. Si tu savais tout ce que j'ai fait pour forcer mon âme à partager l'amour de mon corps, avec quelle furie j'ai plongé ma bouche dans sa bouche, trempé mes bras dans ses cheveux, et comme j'ai serré étroitement sa taille ronde et souple. Comme l'antique Salmacis, l'amoureuse du jeune hermaphrodite, je tâchais de fondre son corps avec le mien. Je buvais son haleine et les tièdes larmes que la volupté faisait déborder du calice trop plein de ses yeux. Plus nos corps s'enlaçaient et plus nos étreintes étaient intimes, moins je l'aimais. Mon âme, assise tristement, regardait d'un air de pitié ce déplorable hymen où elle n'était pas invitée, où se voilait le front de dégoût et pleurait silencieusement sous le pan de son manteau. Tout cela tient peut-être à ce que réellement je n'aime pas Rosette, toute digne d'être aimée qu'elle soit, et quelque envie que j'en ai. Pour me débarrasser de l'idée que j'étais, moi, je me suis composé des milieux très étranges, où il était tout à fait improbable que je me rencontrasse, et j'ai tâché, ne pouvant jeter mon individualité aux orties, de la dépayser de façon qu'elle ne se reconnût plus. J'y ai assez médiocrement réussi, et ce diable de moi me suit obstinément. Il n'y a pas moyen de s'en défaire. Je n'ai pas la ressource de lui faire dire, comme aux autres importuns, que je suis sorti ou que je suis allé à la campagne. J'ai eu ma maîtresse au bain et j'ai fait le triton de mon mieux. La mer était une fort grande cuve de marbre. Quant à la Néréide, ce qu'elle faisait voir accusait l'eau, toute transparente qu'elle fût, de ne pas l'être encore assez pour l'exquise beauté des choses qu'elle cachait. Je l'ai eue la nuit au clair de lune, dans une gondole avec de la musique. Cela serait fort commun à Venise, mais ici, cela l'est fort peu. Dans sa voiture lancée au grand galop, au milieu du bruit des roues, des sauts et des chaos, tantôt illuminée par les lanternes, tantôt plongée dans la plus profonde obscurité. C'est une manière qui ne manque pas d'un certain piquant, et je te conseille d'en user. Mais j'oubliais que tu es un vénérable patriarche, et que tu ne donnes point dans de pareils raffinements. Je suis entré chez elle par la fenêtre, ayant la clé de la porte dans ma poche. Je l'ai fait venir chez moi en plein jour, et enfin je l'ai compromise de telle façon que personne maintenant, excepté moi bien entendu, ne doute qu'elle ne soit ma maîtresse. À cause de toutes ces inventions qui, si je n'étais aussi jeune, auraient l'air des ressources d'un libertin blasé, Rosette m'adore principalement et par-dessus tous autres. Elle y voit l'ardeur d'un amour pétulant que rien ne peut contenir et qui est le même malgré la diversité des temps et des lieux. Elle y voit l'effet sans cesse renaissant de ses charmes et le triomphe de sa beauté et, en vérité, je voudrais qu'elle eût raison. Et ce n'est point ma faute si la sienne non plus. Il faut être juste si elle ne l'a pas. Le seul tort que j'ai envers elle, c'est d'être moi. Si je lui disais cela, l'enfant répondrait bien vite que c'est précisément mon plus grand mérite à ses yeux, ce qui serait plus obligeant que sensé. Une fois, c'était dans les commencements de notre liaison, j'ai cru être arrivé à mon but. Une minute, j'ai cru avoir aimé. J'ai aimé. Oh, mon ami! Je n'ai vécu que cette minute-là, et si cette minute eût été une heure, je fusse devenu un dieu. Nous étions sortis, tous les deux à cheval, moi sur mon cher Ferragus, elle sur une jument couleur de neige, qui a l'air d'une licorne tant elle a les pieds déliés et l'encolure svelte. Nous suivions une grande allée d'ormes d'une hauteur prodigieuse. Le soleil descendait sur nous, tiède et blond, tamisé par les déchiquetures du feuillage. Des losanges d'outre-mer scintillaient par places dans des nuages pommelés, de grandes lignes d'un bleu pâle jonchaient les bords de l'horizon et se changeaient en un vert pomme extrêmement tendre lorsqu'elles se rencontraient avec les tons orangés du couchant. L'aspect du ciel était charmant et singulier. La brise nous apportait je ne sais quelle odeur de fleurs sauvages, on ne peut plus ravissante. De temps en temps, un oiseau partait devant nous et traversait l'allée en chantant. La cloche d'un village que l'on ne voyait pas sonnait doucement l'Angélus, et les sons argentins qui ne nous arrivaient qu'atténués par l'éloignement avaient une douceur infinie. Nos bêtes allaient le pas et marchaient côte à côte, d'une manière si égale que l'une ne dépassait pas l'autre. Mon cœur se dilatait et mon âme débordait sur mon corps. Je n'avais jamais été si heureux. Je ne disais rien, ni Rosette non plus. Et pourtant, nous ne nous étions jamais aussi bien entendus. Nous étions si près l'un de l'autre que ma jambe touchait le ventre du cheval de Rosette. Je me penchai vers elle et passai mon bras autour de sa taille. Elle fit le même mouvement de son côté et renversa sa tête sur mon épaule. Nos bouches se prirent. Oh, quel chaste et délicieux baiser! Nos chevaux marchaient toujours avec leur bride flottante sur le cou. Je sentais le bras de Rosette se relâcher et ses reins ployer de plus en plus. Moi-même, je faiblissais et j'étais près de m'évanouir. Ah, je t'assure que dans ce moment-là, je ne songeais guère si j'étais moi ou un autre. Nous allâmes ainsi jusqu'au bout de l'allée, où un bruit de pas nous fit reprendre brusquement notre position. C'étaient des gens de connaissance aussi à cheval qui vinrent à nous et nous parlèrent. Si j'avais eu des pistolets, je crois que j'aurais tiré sur eux. Je les regardais d'un air sombre et furieux qui aura dû leur paraître bien singulier. Après tout, j'avais tort de me mettre si fort en colère contre eux, car ils m'avaient rendu, sans le vouloir, le service de couper mon plaisir à point au moment où, par son intensité même, il allait devenir une douleur ou s'affaisser sous sa violence. C'est une science que l'on ne regarde pas avec tout le respect qu'on lui doit que celle de s'arrêter à temps. Quelquefois, en étant couché avec une femme, on lui passe le bras sous la taille. C'est d'abord une grande volupté de sentir la tiède chaleur de son corps, la chair douce et veloutée de ses reins, l'ivoire poli de ses flancs, et de renfermer sa main sur sa gorge qui se dresse et frissonne. Alors la belle s'endort dans cette position amoureuse et charmante. La cambrure de ses reins devient moins prononcée, sa gorge s'apaise, son flanc est soulevé par la respiration plus large et plus régulière du sommeil, ses muscles se dénouent, sa tête roule dans ses cheveux. Cependant, votre bras est plus pressé. Vous commencez à vous apercevoir que c'est une femme et non une sylphide. Mais vous n'ôteriez votre bras pour rien au monde. Il y a beaucoup de raisons pour cela. La première, c'est qu'il est assez dangereux de réveiller une femme avec qui l'on est couché. Il faut être en état de substituer au rêve délicieux qu'elle fait sans doute une réalité encore plus délicieuse. La seconde, c'est qu'en la priant de se soulever pour retirer votre bras, vous lui dites d'une manière indirecte qu'elle est lourde et qu'elle vous gêne, ce qui n'est pas honnête, ou bien vous lui faites entendre que vous êtes faible ou fatigué, chose extrêmement humiliante pour vous et qui vous nuira infiniment dans son esprit. Et la troisième est que, comme on l'a dû du plaisir dans cette position, on croit qu'en la gardant, on pourra en éprouver encore. En quoi on se trompe? Le pauvre bras se trouve pris sous la masse qui l'opprime. Le sang s'arrête, les nerfs sont tiraillés, et l'engourdissement vous picote avec ses millions d'aiguilles. Vous êtes une manière de petit Milon crotoniate, et le matelas de votre lit et le dos de votre divinité représentent assez exactement les deux parties de l'arbre qui se sont rejointes. Le jour vient enfin qui vous délivre de ce martyre, et vous sautez à bas de ce chevalet avec plus d'empressement qu'aucun mari n'en met à descendre de l'échafaud nuptial. Ceci est l'histoire de bien des passions. C'est celle de tous les plaisirs. Quoi qu'il en soit, malgré l'interruption ou à cause de l'interruption, jamais volupté pareille n'a passé sur ma tête. Je me sentais réellement un autre. L'âme de Rosette était entrée tout entière dans mon corps. Mon âme m'avait quitté et remplissait son cœur comme son âme, à elle, remplissait le mien. Sans doute, elle s'était rencontrée au passage, dans ce long baiser équestre, comme Rosette l'a appelé depuis, ce qui m'a fâché par parenthèse, et s'était traversée et confondue aussi intimement que le peuvent faire les âmes de deux créatures mortelles sur un grain de boue périssable. Les anges doivent assurément s'embrasser ainsi, et le vrai paradis n'est pas au ciel, mais sur la bouche d'une personne aimée. J'ai attendu vainement une minute pareille, et j'en ai sans succès provoqué le retour. Nous avons été bien souvent nous promener à cheval dans l'allée du bois par de beaux couchers de soleil. Les arbres avaient la même verdure, les oiseaux chantaient la même chanson, Mais nous trouvions le soleil terne, le feuillage jauni. Le chant des oiseaux nous paraissait aigre et discordant. L'harmonie n'était plus en nous. Nous avons mis nos chevaux au pas et nous avons essayé le même baiser. Hélas, nos lèvres seules se joignaient, et ce n'était que le spectre de l'ancien baiser. Le beau, le sublime, le divin, le seul vrai baiser que j'ai donné et reçu en ma vie, était envolé à tout jamais. Depuis ce jour-là, je suis toujours revenu du bois avec un fond de tristesse inexprimable. Rosette, toute gaie et folâtre qu'elle soit habituellement, ne peut échapper à cette impression, et sa rêverie se trahit par une petite moue délicatement plissée qui vaut au moins son sourire. Il n'y a guère que la fumée du vin et le grand éclat des bougies qui me puissent faire revenir à ces mélancolies-là. Nous buvons tous les deux comme des condamnés à mort, silencieusement et coup sur coup, jusqu'à ce que nous ayons atteint la dose qu'il nous faut. Alors nous commençons à rire et à nous moquer du meilleur cœur de ce que nous appelons notre sentimentalité. Nous rions parce que nous ne pouvons pleurer. Ah, qui pourra faire germer une larme au fond de mon œil tari? Pourquoi ai-je eu tant de plaisir ce soir-là? Il me serait bien difficile de le dire. J'étais pourtant le même homme, Rosette la même femme. Ce n'était pas la première fois que je me promenais à cheval, ni elle non plus. Nous avions déjà vu ce coucher de soleil, et ce spectacle ne nous a pas autrement touchés que la vue d'un tableau que l'on admire, selon que les couleurs en sont plus ou moins brillantes. Il y a plus d'une allée d'or et de marronniers dans le monde, et celle-là n'était pas la première que nous parcourions. Et qui donc nous y a fait trouver un charme si souverain, qui métamorphosait les feuilles mortes en topazes, les feuilles vertes en émeraudes, qui avait doré tous ces atomes voltigeants et changé en perles toutes ces gouttes d'eau écrenées sur la pelouse, et qui donnait une harmonie si douce au son d'une cloche habituellement discordante et au piaillement de je ne sais quels oisillons. Il fallait qu'il y eût dans l'air une poésie bien pénétrante, puisque nos chevaux mêmes paraissaient la sentir. Rien au monde, cependant, n'était plus pastoral et plus simple. Quelques arbres, quelques nuages, 5 ou 6 brins de serpolet, une femme et un rayon de soleil brochant sur le tout comme un chevron d'or sur un blason. Il n'y avait d'ailleurs dans ma sensation ni surprise ni étonnement. Je me reconnaissais bien. Je n'étais jamais venu dans cet endroit, mais je me rappelais parfaitement et la forme des feuilles et la position des nuées. Cette colombe blanche qui traversait le ciel s'envolait dans la même direction. Cette petite cloche argentine que j'entendais pour la première fois avait bien souvent tinté à mes oreilles, et sa voix me semblait une voix amie. J'avais, sans y être jamais passé, parcouru cette allée bien des fois, avec des princesses montées sur des licornes. Les plus voluptueux de mes rêves s'y allaient promener tous les soirs, et mes désirs s'y étaient donné des baisers absolument pareils à celui échangé par moi et Rosette. Ce baiser n'avait rien de nouveau pour moi, mais il était tel que j'avais pensé qu'il serait. C'est peut-être la seule fois de ma vie que je n'ai pas été désappointé et que la réalité m'a paru aussi belle que l'idéal. Si je pouvais trouver une femme, un paysage, une architecture, enfin quelque chose qui répondit à mon désir intime aussi parfaitement que cette minute-là a répondu à la minute que j'avais rêvée, je n'aurais rien à envier aux dieux et je renoncerais très volontiers à ma stalle du paradis. Mais, en vérité, je ne crois pas qu'un homme de chair pût résister une heure à des voluptés si pénétrantes. Deux baisers comme cela pomperaient une existence entière et feraient vite complet dans une âme et dans un corps. Ce n'est pas cette considération-là qui m'arrêterait. car ne pouvant prolonger ma vie indéfiniment, il m'est égal de mourir, et j'aimerais mieux mourir de plaisir que de vieillesse ou d'ennui. Mais cette femme n'existe pas. Si, elle existe, je n'en suis peut-être séparé que par une cloison. Je l'ai peut-être coudoyée hier ou aujourd'hui. Que manque-t-il à Rosette pour être cette femme-là? Il lui manque que je le crois. Quelle fatalité me fait donc avoir toujours pour maîtresse des femmes que je n'aime pas. Son cou est assez poli pour suspendre les colliers les mieux ouvrés. Ses doigts sont assez effilés pour faire honneur aux plus belles et aux plus riches bagues. Le rubis rougirait le plaisir de briller au bout vermeil de son oreille délicate. Sa taille pourrait ceindre le ceste de Vénus. Mais c'est l'amour seul qui sait nouer l'écharpe de sa mère. Tout le mérite qu'a Rosette est en elle, je ne lui ai rien prêté. Je n'ai pas jeté sur sa beauté ce voile de perfection dont l'amour enveloppe la personne aimée. Le voile d'Isis est un voile transparent à côté de celui-là. Il n'y a que la satiété qui en puisse lever le coin. Je n'aime pas Rosette. Du moins l'amour que j'ai pour elle, si j'en ai, ne ressemble pas à l'idée que je me suis faite de l'amour. Après cela, mon idée n'est peut-être pas juste. Je n'ose rien décider. Toujours est-il qu'elle me rend tout à fait insensible au mérite des autres femmes, et je n'ai désiré personne avec un peu de suite depuis que je la possède. Si elle a à être jalouse, ce n'est que de fantômes, ce dont elle s'inquiète assez peu, et pourtant, mon imagination est sa plus redoutable rivale. C'est une chose dont, avec toute sa finesse, elle ne s'apercevra probablement jamais. Si les femmes savaient cela, que d'infidélité l'amant le moins volage fait à la maîtresse la plus adorée. Il est à présumer que les femmes nous le rendent, et au-delà, mais elles font comme nous, et n'en disent rien. Une maîtresse est un thème obligé qui disparaît ordinairement sous les fioritures et les broderies. Bien souvent, les baisers qu'on lui donne ne sont pas pour elle. C'est l'idée d'une autre femme que l'on embrasse dans sa personne, et elle profite plus d'une fois, si cela peut s'appeler un profit, des désirs inspirés par une autre. Ah, que de fois, pauvre Rosette, tu as servi de corps à mes rêves et donné de réalité à tes rivales. Que d'infidélité dont tu as été involontairement la complice. Si tu avais pu penser au moment où mes bras te serraient avec tant de force, où ma bouche s'unissait le plus étroitement à la tienne, que ta beauté et ton amour n'y étaient pour rien, que ton idée était à mille lieues de moi, si l'on t'avait dit que ces yeux, voilés d'amoureuse langueur, ne s'abaissaient que pour ne pas te voir et ne pas dissiper l'illusion que tu ne servais qu'à compléter, et qu'au lieu d'être une maîtresse, tu n'étais qu'un instrument de volupté, un moyen de tromper un désir impossible à réaliser. Oh, céleste créature, belle vierge frêle et diaphane, qui penchez vos yeux de pervenche et joignez vos mains de lys sur les tableaux à fond d'or des vieux maîtres allemands, sainte des vitraux, martyre des micelles, qui souriait si doucement au milieu des enroulements des arabesques et qui sortait si blonde et si fraîche de la cloche des fleurs. Ô vous, belle courtisane, couchée toute nue dans vos cheveux sur des lits semés de roses sous de larges rideaux de pourpre, avec vos bracelets et vos colliers de grosses perles, votre éventail et vos miroirs où le couchant accroche dans l'ombre une flamboyante paillette. Brune fille du Titien, qui nous étalez si voluptueusement vos hanches ondoyantes, vos cuisses fermes et dures, vos ventres polis et vos reins souples et musculeux. Antique déesse, qui dressez votre blanc fantôme sous les ombrages du jardin, Vous faites partie de mon sérail. Je vous ai possédé tour à tour. Sainte Ursule, j'ai baisé tes mains sur les belles mains de Rosette. J'ai joué avec les noirs cheveux de la Muranaise, et jamais Rosette n'a eu tant de peine à se recoiffer. Virginale Diane, j'ai été avec toi plus qu'Actéon, et je n'ai pas été changé en cerf. C'est moi qui remplaçais ton bel Endymion. Que de rivales dont on ne se défie pas et dont on peut se venger, encore ne sont-elles pas toujours peintes ou sculptées. Femme, quand vous voyez votre amant devenir plus tendre que de coutume, vous étreindre dans ses bras avec une émotion extraordinaire, quand il plongera sa tête dans vos genoux et la relèvera pour vous regarder avec des yeux humides et errants, quand la jouissance ne fera commenter son désir et qu'il éteindra votre voix sous ses baisers comme s'il craignait de l'entendre, soyez certaine qu'il ne sait seulement pas si vous êtes là, qu'il a en ce moment rendez-vous avec une chimère que vous rendez palpable et dont vous jouez le rôle. Bien des chambrières ont profité de l'amour qu'inspiraient les reines. Bien des femmes ont profité de l'amour qu'inspiraient les déesses, et une réalité assez vulgaire a souvent servi de socle à l'idole idéal. C'est pourquoi les poètes prennent habituellement dans ces sales guenipes pour maîtresse. On peut coucher 10 ans avec une femme sans l'avoir jamais vue. C'est l'histoire de beaucoup de grands génies et dont les relations ignobles ou obscures ont fait l'étonnement du monde. Je n'ai fait à Rosette que des infidélités de ce genre-là. Je ne l'ai trahie que pour des tableaux et des statues. Elle a été de moitié dans la trahison. Je n'ai pas sur la conscience le plus petit péché matériel à me reprocher. Je suis de ce côté aussi blanc que la neige Jungfrau, et pourtant, sans en être amoureux de personne, je désirerais l'être de quelqu'un. Je ne cherche pas l'occasion, et je ne serais pas fâché qu'elle vînt. Si elle venait, je ne m'en servirais peut-être pas, car j'ai la conviction intime qu'il en serait de même avec une autre, et j'aime mieux qu'il en soit ainsi avec Rosette qu'avec tout autre, car la femme ôtée, il en reste du moins un joli compagnon, plein d'esprit, et très agréablement démoralisé. Et cette considération n'est pas une des moindres qui me retiennent, car en perdant la maîtresse, je serais désolé de perdre l'amie.